Pasouk dit la chose suivante. Usfartem lachem mimachorat Shabbat. Usfartem lachem mimachorat Shabbat. Vous compterez donc à partir du lendemain de Pessah 50 jours, et vous approcherez à ce moment-là une nouvelle mincha, c'est-à-dire, il s'agit ici de ce qu'on appelle shtei alechem, c'est les deux pains qu'on apporte, qui sont une partie du korban de Shavuot. Et ce jour-là, ukratem be'etzem hayom hazeh, mikra kodesh yelachem. Ce jour-là, ça sera un Mikra Kodesh, c'est un Moed, c'est-à-dire un jour de fête. En fait, dans la paracha des Moadim, des jours de fête, chaque fête a un texte ad hoc. Il y a un texte pour Pessah, il y a un texte pour Sukkot. Il n'y a pas de texte qui soit réservé à Shavuot. Ici, on voit Shavuot présenté comme la suite de la Sfirat HaOmer. C'est-à-dire, le texte parle de Sfirat HaOmer, et le point culminant de Sfirat HaOmer, le 50e jour, c'est Shavuot. Mais il n'y a pas un texte spécifique de Shavuot. Donc, ça a l'air de se présenter comme si en réalité, s'il y a un Moed de Shavuot, c'est en tant que c'est la fin du compte. On a fait ce fameux compte, on est arrivé à 50, extra, on fait une fête. Mais d'un autre côté, le Sefer HaChinuch, il explique longuement, je crois que j'en ai peut-être déjà parlé avec vous, ouais, que en réalité, là, il explique pourquoi est-ce qu'on compte, quel est le sens de ce décompte des jours. Lui, il dit que c'est l'expression de notre désir d'arriver, enfin, de se trouver à Matan Torah, et donc on compte les jours, de sorte par tellement on est pressé, tellement on a envie d'y être, alors on compte les jours. Donc pour lui, c'est exactement le contraire. Si vous voulez, pour lui, la Sfirat HaOmer, elle prend son sens de Shavuot. Mais on n'a toujours pas de texte spécifique pour Shavuot. Et donc on a cette contradiction d'une certaine façon entre la vision que propose le Chinuch et d'un autre côté, le texte. Dans un cas, on présente Shavuot comme l'aboutissement d'un décompte, et d'un autre côté, on dit que le décompte, c'est l'expression de notre désir d'arriver à ce moment-là. Quand Moshe Rabbeinu, dans le Sefer Dvarim, quand il rapporte au Bnei Israël choses telles qu'elles se sont passées, il dit « Vaiten Hashem elai et shene luchot ha'avanim » Hashem m'a donné les deux tables de pierre « Ktuvim be'etzba Elokim » écrites par le doigt d'Elokim « Ve'alehem » et sur ces tables « Kechol ha'dvarim asher diber Hashem imachem bahar mitoch ha'esh b'yom ha'kahal » et il y a tout ce qu'Hachem vous a dit au Sinaï, lorsqu'il a parlé au milieu de manifestation de feu, le jour du Hakahal, Hakel, en fait, le Hakahal ici, c'est le même mot qu'il y a dans la parasha de Vayakhel, où Moshe Rabbeinu rassembler, le kahal c'est un mot pour dire la communauté d'Israël. Le yom kahal c'est le jour du rassemblement de tout le monde, c'est Le jour où tout le monde était là, c'est-à-dire le jour où les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde était là. Et donc on voit une nouvelle chose ici, dans ce texte, que le jour de Matan Torah est appelé le jour du rassemblement, le jour du Kahal. Effectivement, un peu plus bas, dans la, toujours dans le Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu dit que Chol Asher Sha'alta Mim Hashem Elokecha Bechorev Beyom HaKahal. Tout ce que tu as demandé à Hashem ton Dieu, au Chorev, c'est les romans Sinaï, le jour du rassemblement. Or, dans la Torah, c'est dans les quatre livres, les quatre premiers livres qui sont la nevoie de Moshe Rabbeinu, Akahal, c'est, comme je vous l'ai dit, ça ne fait pas référence du tout à Matan Torah. Ça fait référence au fait que Moshe Rabbeinu rassemblait tout le monde au moment de Hakamat HaMishkan, c'est-à-dire au moment où on a érigé le Mishkan. Donc le Yom HaKahal, c'est pas Matan Torah, c'est le jour de l'érection du Mishkan. Et il y a un autre moment qui est appelé, qui est en relation avec le Kahal, c'est Korban Pesach. Dans le pasuk concernant le Korban Pesach, il est dit Veshachatu oto kol Kahal Adat Israël. Ils en feront la shrita de ce Korban Pesach, le Kahal de la communauté témoignante d'Israël. En tout cas, que ce soit Pessah ou que ce soit l'érection du Mishkan, mais en tout cas, dans les quatre premiers livres, on ne trouve pas mention de Matan Torah comme étant un jour de rassemblement. C'est Moshe Rabbeinu qui le décrit comme ça. Pour essayer de voir de quoi il s'agit exactement, on va regarder ce qui est dit dans Parshat Yitro, avant les Aseret HaDibrot, ou enfin au moment des Aseret HaDibrot, le pasouk dit la chose de la manière suivante. Il dit Vaidaber Elohim et kol hadvarim ha'ele lemor. Elohim a parlé toutes ces paroles-là, lemor, pour qu'elles soient dites. Et Rashi explique ici, hein, sur place, vous vous souvenez probablement, Rashi dit, Melamed, ce verset-là vient nous enseigner, chez Amar HaKadosh Baruch Hu, Aseret HaDibrot, Bedibur Echad. HaKadosh Baruch Hu a dit les Aseret HaDibrot, les dix paroles, et les a dites en une seule parole. Et Rashi rajoute, Ma She'i Efshar LaAdam Lomar Ken. Ce qu'évidemment un homme ne peut pas faire, on peut ni le faire ni l'entendre. Alors là, Rashi rapporte que Chazal demande, mais dans ce cas-là, Ma Talmud Lomar Od Anochi Velo Yelecha. Si le verset dit que Akadosh Baruch Hu a dit toutes les Aseret HaDibrot, mais Dibur Echad. Alors pourquoi ensuite il est dit Anochi, Lo Yelecha, il y a l'énumération des Aseret HaDibrot? Rashi rapporte, Chazal qui dit chez Chazar, ou Piresh, Alkol, Dibur, Vedibur, Bifne Atzmo. Akadosh Baruch Hu est revenu sur chacune des paroles et il l'a explicité séparément. Donc il s'agit de comprendre qu'est-ce que c'était exactement ce Dibur, cette parole qui est, dans laquelle était condensé de façon inaudible, inexpressible par un être humain, inaudible par les humains, les Aseret HaDibrot, d'autant qu'après elles sont effectivement déployées, explicitées. Là-dessus, le Maharal, son commentaire sur la Torah, dans le Guarier, il explique, il dit, bien que les Israël n'ont rien compris à cette parole-là qui était cette condensation des Aseret HaDibrot en un seul dibour, alors quel était le sens? Amram Bedibur Echad, elles ont été dites, ces dix paroles, en une seule parole. L'Omar, le Maharal dit, qu'est-ce que Ki kol haTorah inyan echad v'dibur echad. Ça vient dire qu'en réalité, toute la Torah, c'est en fait une seule parole, un seul sujet, une seule parole. Comme il dit, Sha'arei kol haTorah em yotzim me'aseret haDibrot. Toute la Torah, elle dérive des Aseret haDibrot. Et maintenant, on dit que les Aseret haDibrot, c'est un seul dibour, donc toute la Torah, c'est un seul dibour. Et maintenant, tu me diras, mais qu'est-ce que ça change? Le Maharal dit, ça change beaucoup, parce que c'est de là qu'on apprend, chez Imamar, que si quelqu'un dit, Kol haTorah kula min haShamayim, la Torah toute entière, elle a été donnée par Hachem. Chutz mi pasuk ze, sauf ce pasuk-là, quel que soit le pasuk en question. Alors dit Maharal, ou bichlal dvar Hachem baza, ve kofer bechol haTorah. Il entre dans la catégorie de ceux dont on dit qu'ils méprisent la parole d'Hachem, qu'ils nient les valeurs de la Torah, qui me'achar chez kol haTorah kula dibur echad, étant donné que toute la Torah c'est une seule parole, ve'ein ze beloze, ça veut donc dire qu'on ne peut pas séparer un dibur d'un autre dibur de la Torah. Dit, la Torah elle est comme un point. Il n'y a pas d'étendue, si vous voulez, que d'après le que présente le Maharal. Et donc, si quelqu'un est kofer, s'il nie ce qu'il pense être, ne n'être qu'une partie, il est kofer de kol haTorah kula. Il est kofer toute la Torah. Bien sûr que si quelqu'un, même si on n'avait pas eu cette unité, alors on aurait pu dire comme on le dit de quelqu'un qui, par exemple, ne respecte pas la Torah. Quelqu'un qui ne respecte pas la Torah, hein, sur un point bien précis. Alors il a un statut de moumar, justement, on tient compte qu'il ne respecte pas cette Torah, et dans tout ce domaine-là, il est, par exemple, il n'est pas cru s'il vient témoigner sur cette situation-là, on ne lui fait pas confiance, etc. Alors il existe certains points sur lesquels Shabbat ou Avodah Zarah, si on ne reconnaît pas ces points-là, c'est comme si c'est équivalent au tout. Cette partie-là est équivalente au tout. Mais le reste du temps, on est seulement localement, partiellement, négateur de la Torah. Mais à partir du moment où on vient et on dit, mais tout ça c'est un seul dibour, et qu'on nie un dibour en disant, ce dibour-là il ne vient pas d'Hachem, eh bien donc ça veut dire que rien ne vient d'Hachem. Et donc il est nécofer kol haTorah kula. Ça c'est ce que le Maharal dit pour expliquer le sens de cette façon de présenter les Aseret haDibrot en un seul dibour, puisque comme il fait remarquer, on ne comprend pas très bien à quoi ça sert, dans la mesure où c'est inaudible. Mais en fait, nous on est toujours encore à la recherche d'une signification, parce qu'effectivement on apprend de là que la Torah est une Dieu. Mais malgré tout, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire cette opération là par laquelle Hachem transmet quelque chose d'inaudible, quelque chose que les hommes ne peuvent pas entendre. Comment est-ce qu'on pourra dire que les Bnei Israël ont accepté la Torah avec ça? Ils n'ont rien compris. Ils n'ont même rien entendu, probablement. Pour essayer de comprendre un peu mieux, pour essayer d'y voir un peu plus clair, Moshe Rabbeinu, toujours dans le Sefer Dvarim, il dit au Bnei Israël, Vayaged lachem et brito, Hachem vous a dit son alliance, Asher tziva etchem la'asot. Et donc, quand il y a une alliance, il vous a dit ce qu'il attendait de vous pour que cette alliance tienne. Lui propose son alliance et il dit voilà ce que je veux que vous fassiez. Alors c'est la asot asevet advarim. Hachem dit voilà, il y a mon alliance, c'est un brit. Vous, votre contribution, votre participation à cette alliance, c'est vous allez accepter asevet adibrot. Et vaïrtevem al shne luchot avanim. Et Hachem les a, c'est Aseret Adibrot qui sont la part des hommes. Il a mis ça par écrit sur les tables et il a donné à Moshe Rabbeinu pour que Moshe Rabbeinu donne ses tables au Bnei Israël. Donc on entend ici quelque chose, encore quelque chose de nouveau, c'est que ces 10 paroles sont appelées Brito, le Brit d'Hachem. L'alliance d'Hachem. Alors, l'alliance, peut-être, c'est pas le bon mot, parce que une alliance, ça peut se faire aussi entre les hommes, alors que le mot brit, il n'a pas de sens. C'est pas le bon mot dans la Torah pour. Et c'est peut-être pour ça qu'Hachem a été tellement sévère à l'égard d'Abraham Avinu, quand il a fait une alliance avec Avimelech, en soi. En tout cas, le brit. C'est la réalité, c'est une réalité, c'est un lien. C'est un lien de celui qui entre dans cette alliance avec, en fait, la racine de la vie elle-même. C'est une alliance avec la source de vie, littéralement. C'est comme si le clan d'Israël se branchait sur la vie. Le Ramban explique, quand il parle de Brit, il parle de Brit qu'Hachem a fait avec l'humanité, qu'il a après le déluge. Le Ramban dit que Brit, ça s'écrit Bet Resh Yud Tav, il dit que c'est Milachon Briati, ma création. Ça veut dire que le Brit, c'est le fait que on est un lien avec la source de la création. Alors, on pourrait dire, mais est-ce que ce n'est pas le cas de toutes les mitzvot? Est-ce qu'on a besoin d'un brit? Une mitzvah, elle me relie effectivement au Créateur. Mais le Créateur ici, celui avec lequel je suis en liaison par le biais de la mitzvah, le metzavé, celui qui donne les ordres, qui donne la mitzvah, il est plutôt à comparer à un roi qui donne des ordres à ses sujets. Par contre, quand Hachem nous a proposé d'entrer en alliance, en brit avec lui, alors ça veut dire que ça donne aux ordres qui sont dits dans la Aseret Adibrot, qui sont le contenu de l'alliance, en fait, de notre point de vue, ça donne à ces ordres-là une dimension particulière parce que ça vient dire qu'ils viennent du lien avec la vie. C'est-à-dire que la vie et les mitzvot, désormais, ont le même degré de réalité, si vous voulez. On lit l'accomplissement de la mitzvah avec la durée du réel, du monde réel. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un roi qui donne ses ordres. C'est que ces ordres-là nous mettent nous mettre en relation, bonsoir, avec la source de vie, comme on a dit, et donc mettre les mitzvot au niveau de la réalité la plus basique, en quelque sorte, celle de la vie. Les mitzvot et la vie, c'est désormais donc complètement partie liée. Voir un peu comment ça se traduit concrètement. La Gemara dans Sanhedrin, elle parle de ce qu'on appelle le Kiddush Hashem, la sanctification du nom divin. Et le Rambam décide, selon cette Gemara-là, que quand quelqu'un se trouve dans la situation où on lui dit que il doit plutôt se laisser tuer que de transgresser, c'est-à-dire c'est dans très peu de cas, mais il y a des cas où il y a une mitzvah de se laisser tuer plutôt que de transgresser. Si quelqu'un, effectivement, dit Rambam, a réussi à le faire, c'est-à-dire il n'a pas transgressé, alors a réalisé Kidesh et Hashem, il a sanctifié le nom divin. Vim haya be'asara mi'Israël, et si ça s'est fait devant 10 personnes juives, arizé kidesh et Hashem berabim, il a sanctifié le nom divin en public, comme ça a été le cas de Daniel, de Michaël, Hanania, Michaël et Azaria, qui c'était, comme vous savez, sur les Babyloniens, ils ont été jetés dans la fosse au lion, et aussi comme Rabbi Akiva et Chaverav. Certains sont morts, d'autres ne sont pas morts. En tout cas, ils étaient prêts à mourir pour ne pas transgresser. Et comme c'était en public, donc il y a un Kiddush Hashem Berabim. Il dit, c'est la même chose que les fameux Asara, Arugé, Malchut, les 10 maîtres qui ont été tués par les Romains. Et c'est sur cette situation-là qu'on dit, on applique le Ki alecha oragnu kol hayom, c'est-à-dire pour toi, nous nous faisons tuer tous les jours. Et il y a un pasouk qui est ramené dans ce contexte qui dit, Asfuli chassidai, rassemblez-moi les gens pieux, Korte briti aleizevach, ceux qui, vous savez, en Lashon HaKodesh, on tranche une alliance, ceux qui tranchent mon alliance, c'est-à-dire en fait qui font mon alliance, et aleizevach, et ce qu'ils font là est plus élevé que les korbanot, c'est plus que d'apporter les sacrifices. Donc on voit dans ces textes-là, la Gemara, le Rambam, le Pasuk, on voit que la Messirut Nefesh, le fait, Al-Kiddush Hashem, ça entre dans la catégorie Korte Briti, ceux qui sont en alliance avec moi, ils font alliance avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, justement, avec ce qu'on avait expliqué précédemment, qu'est-ce que c'est Messirut Nefesh? Cet esprit de sacrifice, le cas échéant, donc, il sacrifiait sa vie, donnait sa vie pour ne pas transgresser, c'est publier en quelque sorte que la vie et la survie, en fait, d'un côté, et les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, c'est sur le même plan, et dans certains cas, il vaut la mitzvah prend le dessus sur la vie. Et quand quelqu'un vient pour empêcher l'accomplissement de la mitzvah, Et si le problème c'est, est-ce que ce qui va se faire là, si effectivement on transgresse, est-ce que ça détruit le lien de cette personne avec l'alliance, avec le Brit? Alors à ce moment-là, s'il résiste, alors il fait partie de Korté Briti Alezevach. Alors bien entendu, sur une mitzvah ordinaire, on n'a pas le droit de se laisser tuer. Parce que à ce moment-là, Chazal nous ont dévoilé, la Torah nous a dit que cette mitzvah, elle n'est pas une mitzvah qui nécessite, c'est pas une occasion de manifester le Kiddush Hashem, c'est-à-dire de montrer que la vie, d'une certaine manière, ne vaut pas la peine d'être vécue si on est obligé de transgresser cela. Mais on sait bien que il y a ces trois fameuses mitzvot sur lesquelles il y a la mitzvah de Kiddush Hashem, mais il y a aussi la mitzvah de Kiddush Hashem sur quasiment n'importe quoi, dès lors que ça nous est imposé pour nous détacher des valeurs de la Torah. Ce qu'on appelle shmad, c'est-à-dire quand on dit aux gens vous changez de lacets parce que désormais vous devez mettre les lacets de cette couleur-là. Et si ça s'inscrit dans une démarche de destruction de la Torah, alors ce détail-là devient tout à coup un détail qui pèse aussi lourd que les trois mitzvot en question, et il y a une mitzvah de Kiddush Hashem. Le Ramban rapporte l'opinion de Ibn Ezra au début de Parashat Behar. Il dit le Brit, l'alliance d'Iramban, elle a été conclue au Sinaï, elle est écrite dans Parshat Mishpatim. C'est le moment où les Bnei Israël ont dit Naase v'nishma, on va faire et on va entendre. À ce moment-là, il y a eu effectivement alliance entre Hachem et le clan d'Israël. Et dit Ramban, c'est Ibn Ezra qui est cité par Ramban, c'est à ce moment-là qu'Hachem leur a donné la paracha de Shemitah et Yovel, dont on nous dit au début de Parashat Behar que ça a été donné au Sinaï, et que de même que ça a été donné au Sinaï, tout a été donné au Sinaï, dans les détails, etc. Et le Ramban dit, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne le cite que dans Parshat Behar, alors que sa place naturelle, c'est au moment de Naase v'nishma, c'est-à-dire dans la parasha de Mishpatim. Alors le Ramban dit, parce qu'on voulait lier les conditions de vie sur la terre d'Israël avec cela, c'est-à-dire que de la même manière qu'on a dit que si on se conduit de telle sorte qu'on transgresse les interdits des harayot, donc tout ce qui est de l'ordre de l'inceste et de la relation sexuelle interdite, le pasouk dit à cause de cela la terre vous vomira. Alors dans cette paracha là on vient nous dire aussi la même chose, si vous voulez, au sujet du Shabbat de la terre, de la Shemitah. Et donc il fallait d'abord nous parler de la Shemitah pour pouvoir nous dire que dans la Shemitah aussi, si on ne respecte pas la Shemitah, la terre nous vomira. Et donc, on entend ici dans ce Ramban, on entend que les Bnei Israël sont entrés dans l'alliance avec Hachem, dans le Brit de la Torah, lorsqu'ils ont dit Naase v'nishma. Et aussi que l'alliance avec ce qui a été dit sur la terre, à savoir que la condition pour que Hachem nous donne la terre, en quelque sorte, Puis aussi, il y a une alliance là-dessus, c'est qu'on respecte la Shemitah, l'Yovel, le Shabbat de la terre. Et vous connaissez probablement ce passouk où Hachem dit « Vezacharti et briti Yaakov, je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov, de mon alliance avec Yitzhak, de mon alliance avec Abraham. Vaf, donc Vaf et briti Abraham Eskor, je me souviendrai également de mon alliance avec Abraham. Vehaaretz Eskor, et je me souviendrai aussi de la terre. » Donc Abraham, Yitzhak, Yaakov, la terre. Ou plutôt, Yaakov, Yitzhak, Avraham, la terre. Le Ramban dit que ce souvenir de la terre, tel qu'il est présenté ici, il est mis sur le même plan quasiment que le souvenir des Avot, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, il y a des choses. Donc, avec le brit sur la terre et le brit sur qu'Hachem a conclu avec les Avot, c'est du même ordre. En fait. Donc, l'idée de base ici, c'est ce que nous disons dans les Zmirot de Shabbat. Nous disons Uba'u kulam bivrit yachad, nase venishma amru keechad. Ils sont tous entrés ensemble dans l'alliance. Ils ont dit Nase Venishma tous ensemble, comme un seul homme. Ça veut dire ici que quand ils ont dit Nase Venishma, ils ont cette expression-là, elle a à voir avec l'idée de base, avec leur volonté. D'exprimer qu'ils ont bien compris que le monde d'en haut et le monde d'en bas, donc le monde d'en haut et le monde de l'action des hommes, du naasé des hommes, que ces deux mondes sont complètement liés. Au niveau de la volonté divine, dans le monde d'en haut, évidemment, tout est unifié, tout est Echad. Hachem est Echad, et tous, dans ce monde-là, tout est Echad, tout est un. Et il n'y a pas de... Évidemment, il n'y a pas de deux, il n'y a pas de séparation, tout est unifié. Tout participe de l'unité fondamentale. Et donc, il est clair que quand on a dit « Naaseh Venishma », il y a eu une unité, ça a englobé une unité complète, et c'est à ce moment-là que s'est dévoilé ce qui s'appelle Knesset Israël, c'est-à-dire l'Assemblée d'Israël, Knesset, le rassemblement d'Israël. Vous savez bien que les Bnei Israël ne sont devenus un peuple qu'au pied du Sinaï. Mais la question était toujours ouverte. Est-ce qu'ils ont reçu la Torah parce qu'ils étaient devenus un peuple, ou est-ce qu'ils sont devenus un peuple parce qu'ils ont reçu la Torah? Et ici, on entend que, en disant Naaseh Venishma, sur le modèle du monde d'en haut qui est totalement unifié, ils disent quelque chose sur eux-mêmes et ils disent c'est le bride, donc ça va se correspondre, donc il y aura aussi cette unité. Elle vient de cette alliance, justement parce qu'on a fait cette alliance avec Hachem, l'unité elle vient de là. Et dans les Sfarim on écrit que la Shrina, la présence divine dans le monde, elle a plusieurs noms, et un de ces noms, c'est Knesset Israël. Un des noms de la Shrina, c'est Knesset Israël. Knesset Israël, ça désigne le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire que le mot peuple juif, si vous voulez, bon, on va voir que si ça dit un peu plus que peuple juif, mais que peuple juif, ça veut dire Shrina. C'est un des noms de la Shrina, de la présence divine dans le clan Israël. Alors, on va essayer de comprendre, mais auparavant, voilà encore quelques autres endroits où on comprend un peu la chose. C'est écrit « Va'asuli migdash v'shachanti betocham ». Hachem a dit au Bnei Israël de construire le Mishkan, et ça s'appelle aussi Migdash, et il dit « Ils me feront un Migdash et je résiderai betocham parmi eux ». Donc on voit que le lien de cette résidence de la Shrina, ou même le lieu de la résidence de la Shrina dans le monde, c'est où? C'est Betocham, au sein des Bnei Israël, parmi eux, dans le clan Israël, c'est-à-dire dans Knesset Israël. Donc si vous voulez, la Shrina, elle n'existe que de cette manière-là. Elle existe tellement, tellement fortement de cette manière-là que, c'est-à-dire,
est-ce qu'elle existe que parce qu'il y a beaucoup de peuples, que parce qu'il y a la Knesset?
Oui, il n'y a pas. S'il n'y a pas de clan Israël, s'il n'y a pas de clan Israël, il n'y a pas de résidence dans le monde. Alors, c'est ça, elle réside, mais elle réside d'abord dans le Knesset d'Israël, après on passera à l'échelle individuelle. Et dans une construction de l'espace, c'est le Mikdash, évidemment. C'est le Beth Amikdash, c'est le Mishkan. Et c'est tellement fort que Chazal disent que Kol Makom Shegalou Israël, Shrina Imahem, que quand les Bnei Israël ont été exilés, ben la Shrina a été exilée aussi. Puisque la présence divine colle littéralement à Knesset Israël, là où est Knesset Israël, il y a présence divine. Là, l'Israël est en Galout, présence divine en Galout aussi. Mais c'est aussi un exil pour la Shrina, pour la présence divine.
Ça veut dire quoi?
La Shrina est en exil, ça veut dire elle partage le destin du clan d'Israël. De la même manière qu'Israël, en exil, ne peut pas rayonner totalement, alors la présence divine ne peut pas rayonner totalement non plus. Elle est attachée au clan d'Israël. Elle a le même statut que le clan d'Israël. Mais bien sûr, le tzibour d'Israël, là, c'est ce rassemblement d'Israël, c'est Tzibour, Knesset, c'est tous les mêmes mots, toujours le même mot, le rassemblement, Kahal, etc. Alors, grâce à cette notion de Tzibour du clan Israël, c'est le Knesset, nous nous trouvons littéralement Dvukim Bashem. On colle littéralement à Hashem. Comme c'est marqué, Vatem advekim Bashem, Chaim Kulchem Ayom. Bashem Elokechem, pardon, Chaim Kulchem Ayom. Ça veut dire, comme on a vu plus haut, que là où il y a la notion de Tzibour, du clan d'Israël, alors on ne peut pas se détacher de la source de vie. Puisque c'est ça le Tzibour, c'est être lié à la vie.
C'est indépendant de la
Kavana. Oui. Il faut que se constitue un tzibour, mais c'est pas de Kavana. C'est pas un problème de Kavana.
Conscience de la chose.
Pas de conscience de la chose, mais conscience du tzibour. Qu'est-ce que c'est qu'un tzibour? Qu'est-ce que c'est que le tzibour? On voit très bien que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait un groupe de gens. Mais ça ne formait pas encore un tzibour. On peut avoir un ramassis, sans le péjoratif, mais il peut y avoir un ramassis de gens D'accord ? Ça ne fait pas encore un tzibour ou une knesset. Si je ferais une différence, si vous voulez, entre un ramassi et un rassemblement. Dans le rassemblement, il y a une volonté à la limite de se mettre ensemble. Un ramassi, on ne sait pas qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés ensemble. Les Bnei Israël étaient un rassemblement, mais simplement c'était un préalable. C'est comme, si on veut donner un exemple plus neutre, c'est comme un tas de cellules avant la formation d'un embryon. C'est un tas de cellules initialement. Jusqu'au moment où ce tas de cellules va devenir un embryon. Alors, peu importe qu'on sache ou qu'on ne sache pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi il devient tout à coup un embryon, mais il y a une différence. À un moment donné, c'est un tas de cellules, et après, ça devient un embryon.
Et une organisation.
Oui, par exemple. On voit bien que quand les Bnei Israël sont venu réclamer l'envoi des explorateurs à Moshe Rabbeinu. Ils sont venus et Moshe Rabbeinu, quand il raconte, vous êtes venus me voir, etc., et vous êtes venus dans le désordre. Par contre, quand les Bnei Israël viennent demander les choses, ils viennent avec les skenim, avec les anciens, avec les sages, etc., ils viennent structurer, ça c'est le plan d'Israël. Dans le désordre, ça donne les explorateurs, c'est le désastre. En fait, ce désordre-là, c'est comme si le clan d'Israël s'était défait. Il n'y avait plus le clan d'Israël. Donc si vous voulez, à la limite, que le clan d'Israël est à ce point démérité que quasiment il a fallu détruire toute la génération en question, ben, c'était déjà fait quand ils se sont présentés chez Moshe Rabbeinu. Il n'y avait plus, ils sont venus déstructurer. Il n'y avait plus le clan d'Israël. C'était plus le clan d'Israël. On l'a compris après, probablement. C'est Moshe Rabbeinu le dit, quand vous êtes venu, voilà comment vous êtes venu.
Donc c'est une histoire de nombre
en... Non, pas du tout. C'est pas encore une histoire de nombre. C'est une question d'organisation, disons, au sens... un sens qu'il faut encore préciser de l'organisation. La Gemara demande quand est-ce que on dit qu'on est dans un et ratson, un moment où les choses sont agréées, où la prière va être agréée, ratson ritsui. Oui. La Gemara dit mais shachat tzibur mitpallim. Quand le tzibur prie, c'est un et ratson. Le tzibour prie, alors la shrina est là. Donc, on ne peut pas... Voilà, la shrina est là, donc on est dans les situations, dans la meilleure situation pour que la prière soit agréée. Elle est entendue, en tout cas, immédiatement par la shrina.
Est-ce que ça veut dire que pour qu'il y ait un tzibour, il faut qu'il y ait une convergence de chaque âme, de chaque personne
Oui, juste que bon, il faudra préciser que qu'est-ce que tu appelleras convergence. Et il faudra voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici cette convergence.
Est-ce que d'après tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, on a vu que le rapport à la volonté de la chaîne.
Ah là.
En fait, c'est ça qu'on a fait. Le rapport entre la mitzvah. La volonté d'Hachem et la vie et la matérialité. Tout à l'heure, on voit que le kiddush Hachem, enfin le kiddush Hachem, c'est le sacrifice de sa vie. Ensuite, on a vu que le Bérit Israël, comme la notion d'alliance, qui est passée par la mitzvah de la terre, c'est-à-dire en fait, on sacrifie une partie de la terre, quelque chose qui ne nous revient pas à nous.
Non, c'est-à-dire on admet que la terre n'est pas à nous.
Et finalement, ici, la notion de Shrina qui va fonder l'idée du peuple, l'idée d'unité du peuple, ce serait faire abstraction de son individualité qu'on privilégie le...
Oui, mais il faut faire attention parce qu'il ne s'agit pas du tout de fabriquer des numéros, quoi. Cette abstraction de l'individualité, il faut faire attention parce qu'on veut que chacun, justement, dans l'ordre, dans l'organisation dont on parle, il y a les skénimes, etc. Donc chacun vient avec sa... Ils viennent ordonner. Il va falloir, effectivement, dans Monsieur Haute-Nefesh, on s'abandonne totalement à Hachem, c'est juste. Mais le tzibour, il ne se confectionne pas avec... En abandonnant les choses. Dans le tzibour, chacun a sa spécificité, mais il la donne entièrement. Si on peut parler comme ça, c'est difficile à dire concrètement comment ça s'exprime, mais il la met entièrement au service du tzibour. C'est-à-dire, ce que je sais faire, ce que je suis, ce que je sais faire, je ne le garde pas du tout pour moi, je le mets entièrement à la disposition du tzibour. Je le donne entièrement au tzibour. Donc ça va être cette convergence. Donc c'est toujours cette idée que, par exemple, il y a une halakha qui dit que Ena tzibur metim, le tzibur ne meurt jamais. En d'autres termes, ça veut entre autres dire qu'il n'y a pas un tzibur de l'époque de Moshe, un tzibur de l'époque de Yeshayahu, et un tzibur de l'époque de Yirmiya, un tzibur de l'époque du Rambam, et un tzibur de notre époque, etc. Il n'y a qu'un seul tzibur. Seulement, cette notion-là, elle est habitée successivement par des générations différentes. Mais c'est toujours le tzibour. La question s'était posée de la manière suivante. On explique que quand on a construit le deuxième Beth Amikdash, on a apporté des korbanot pour la kapara des gens du premier, de l'époque du premier Beth Amikdash. La Gemara dit, mais ils sont déjà tous morts. Quel sens ça a d'apporter un... On ne peut pas apporter un korban pour quelqu'un qui est mort. Si par exemple un individu, il a fait une faute, et Monsieur X a fait une faute, et il met de côté un agneau pour l'apporter comme korban pour sa faute, et il meurt. On n'approche pas le korban. Parce qu'il est mort et... Alors maintenant, la question est la même. Maintenant, le tzibour, ces gens-là, ils sont tous morts. Ils étaient tous morts, les gens du premier Betamigdash, à l'époque du second, disons, un peu plus tard. Les gens qui avaient fauté, la Gemara dit, mais ils sont morts. Mais la Gemara dit, non, « Ena tzibour metim ». On ne parle pas des korbanot pour les individus. Il y avait des fautes qui ont été commises collectivement. Et donc le tzibour, dans certains cas, la Torah prévoit, quand le tzibour fait certaines fautes, alors le tzibour doit apporter un korban. Ces korbanotes-là, même quand les gens qui composaient le tzibour à l'époque où la faute a été commise, lorsque tous ces gens-là ne sont plus de ce monde, néanmoins le tzibour ne meurt pas. Pourquoi ? Parce que le tzibour, il y a cette idée de lien avec la source de la vie. Le tzibour ne peut pas mourir parce que, je ne veux pas dire qu'il est la source de la vie, mais enfin il est totalement lié avec la source de la vie. C'est aussi pour ça que Kol Israël Yeshlaem Chelek Leolam Haba. Les Bnei Israël, ils ont Chelek Leolam Haba parce qu'ils sont liés à la vie. Et quand est-ce que, mais seulement ils peuvent perdre cette part. Mais comment est-ce qu'ils la perdent ? Ils la perdent à partir du moment où ils font quelque chose qui les détache du tzibour. C'est pas, ça descend sur les individus, cette appartenance, ce lien avec la vie. Mais à travers la collectivité. C'est parce que le Klal Israël en tant que tel a ce lien que dans la mesure où j'appartiens à ce klal, alors j'en bénéficie. Ça, c'est cette démarche-là, hein, c'est pas du tout la même démarche que la démarche des bnei noir. Il y a des bnei noir qui sont considérés comme chassidé au mot haolam, qui font parfaitement leur mitzvot, etc. Il y a des conditions. Et sous certaines conditions, yesh laim chelek leolam haba. Eux aussi, ils ont une part au monde à venir. Seulement, eux, ils l'ont à titre personnel. Eux, ils l'ont acquise personnellement. Mais si vous voulez, ils l'ont acquise comme initialement, Avraham, qui était le tzibour à ce moment-là, l'a acquise. Il l'a acquise personnellement, seulement lui, il est devenu tzibour. Et alors que ces gens-là, ils ne deviennent pas directement tzibour, mais à partir du moment où ils vont avoir des enfants, le cas échéant, etc., ben voilà, ils vont devenir un tzibour, une part du tzibour. Quand quelqu'un se convertit, par exemple, il devient une part du tzibour. S'il est quelqu'un... Alors là, le problème, c'est que ça, il ne va pas le transmettre, parce qu'il n'a pas la capacité de devenir tzibour à titre individuel. Donc il ne pourra pas transmettre ce chélek l'olam haba à sa descendance. Les bnei Israël, c'est pas qu'on le transmet à sa descendance. C'est qu'à partir de du moment où la descendance appartient elle aussi au clan Israël, alors elle y a droit. Mais c'est pas une transmission d'un père à son enfant. C'est le père, il éduque son enfant, et éventuellement l'enfant, il adhère, il se comporte comme il faut pour continuer de faire partie du tzibour. Et à ce titre-là, il a, à titre personnel, sans rien devoir à son père. C'est pas son père qui lui a fait la courte échelle pour y arriver. C'est pas comme le fils du Cohen qui est Cohen parce que son papa l'était. Lui, le fils du Cohen, il n'est pas Cohen par son mérite personnel. Il a aucun moyen de devenir Cohen s'il ne l'est pas. C'est seulement par son père. Et lui, il peut même pas se sortir complètement de la condition de Cohen.
C'est pas génétique, c'est quand même pas...
C'est pas génétique, mais c'est héréditaire. C'est le... On avait vu que... Akadosh Baruch Hu a... Dans son amour pour le clan d'Israël, on avait vu qu'il a fait, mon cher Rabbeinu, vous vous souvenez, je vous ai dit en son temps, qu'il a aussi fait Aaron à Cohen. En quoi est-ce qu'il a fait Aaron? Il a fait Aaron au sens où... Aaron est devenu Cohen et sa descendance aussi. Normalement, si j'entends par Cohen, j'entends la prêtrise. Avant les Kohanim, la prêtrise, elle était assurée par les prorotes, par les premiers-nés. Mais le premier-né qui était, celui qui était premier-né et qui était prêtre, il ne l'était pas à cause de son papa. Son papa pouvait être ou ne pas être prêtre et lui, il l'est. Et si son père l'est, il ne l'est pas obligatoirement non plus. D'accord. Donc, il n'y avait aucune raison que la prêtrise se transmette de père en fils à partir d'Aaron. Et donc Hachem a fabriqué Aaron, c'est-à-dire qu'il lui a donné un pouvoir non seulement d'être Cohen, mais de pouvoir fabriquer la descendance des Kohanim jusqu'à la fin. C'est en ça qu'il a fait à Aaron quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il l'a fabriqué avec la capacité d'engendrer des Kohanim, en fait. Et c'est intéressant parce que il a fait la même chose pour Pinchas. Pinchas qui, lui, s'est qualifié personnellement, Hachem lui a dit, je te donne Brit Olam. Lui aussi. Sa descendance est devenue Cohen. On aurait pu imaginer que Pinchas lui-même devienne Cohen, mais c'est tout. Ses enfants ne le seraient pas. Hachem lui a donné... La Kehuna à lui, Brit Olam, dans toute sa descendance. Bien que lui, il ait fait ça, il ait gagné ça à titre personnel. On a l'impression qu'il l'a gagné plus à titre personnel que Aaron à titre personnel. Puisque là-bas, c'est marqué Hachem Assa à Aaron. Il a fabriqué Aaron avec ça, avec ses qualités. Tandis que Pinchas, c'est pas marqué, il a fait Pinchas. J'ai l'impression que Pinchas, c'est lui qui a fait quelque chose. Hachem était pas obligé, mais enfin Hachem a pris en compte ce que Pinchas avait fait. Il a dit bon ben visiblement ce qu'il a fait ça ouvre à la Kehuna.
C'est comme si ça ferait une qualification non dite.
ou une métamorphose non dite qui correspond à ce statut.
Oui, non, mais avec un statut de transmissibilité de la chose, c'est pourquoi il serait prêtre de père en fils, je veux dire, à Pitom.
Ce qu'il a fait, c'est aussi quelque chose qui dénote qu'il était.
Oui, non, mais ça ne montre pas du tout que. C'est pas du tout évident que ça va se transmettre dans sa génération, dans les autres générations.
Les Midas sont-elles héréditaires?
Non.
Les Midas, pardon.
Non. Ça, ça serait.
Moi,
hein?
Je
n'ai
pas trouvé ce que tu as dit tout à l'heure. L'enfant, par rapport au clan, il faut que le père le.
Non, je veux dire en passant que le père l'éduque aussi bien qu'il peut. Maintenant, si l'enfant va adhérer ou pas, ça reste de la liberté de l'enfant. Hein.
Un acquiescement.
Non, il faut qu'il y ait, sauf s'il il en sort.
Ah, c'est une volonté de ne pas y être plus qu'une volonté d'y être.
De ce qu'on vient de dire ici, on peut comprendre que c'est finalement l'acte volontaire de se détacher de la matière. Hein? De se détacher de la matière et qui serait ordonnée par Hachem, qui permet de faire présider Hachem dans son.
Mais pourquoi tu dises tu as introduit cette histoire de se couper de la matière?
On donne sa vie pour Hachem. On donne sa terre pour Hachem, on donne aussi tout ce qu'on a comme spécificité ou singularité pour le cibourg. Et à ce moment-là, c'est là qu'on peut introduire la présentation de notre vie. Qu'on fait le lien, c'est-à-dire l'adéquation entre le monde en haut et le monde en bas. Là, on va ramasser les déchets.
Oui, enfin, peut-être il y a un bémol à mettre quand même sur la façon de. En tout cas, c'est pas de la 16.
Oui, c'est pour ça que je voulais mettre en relation ce qu'on a dit. On comprend bien que c'est pas de la 16 dans la notion de Thibault, quand on dit qu'on va donner tout ce qu'on a pour le Thibault. Et comment est-ce qu'on pourrait dire aussi ça dans cette. Avec cette positivité là pour la notion de la terre qu'on donne et de sa propre.
Là-bas on ne donne pas, c'est-à-dire qu'on comprend que la Torah m'est confiée, que la terre m'est confiée. C'est une gestion qui m'est donnée.
Mais c'était pas la femme.
Pardon? Oui. C'est une gestion, donc c'est pas que tu dois te détacher de ta terre. C'est, dès le départ, elle nous a jamais été donnée cette terre. Elle nous a été confiée une gestion, quoi. On est gestionnaire de la chose. Mais c'est sûr que c'est difficile parce que un des modes de possession de la terre, c'est de la gérer. Donc c'est difficile de faire la différence entre dans toutes ces années où on gère la terre, pendant 6 ans où je vis sur cette terre exactement comme le goy à côté. D'accord, qui lui possède la terre, il est là, il a le champ d'à côté, à la frontière, quoi. Il a le champ d'à côté, et je fais la même chose que lui, et moi, tout ce que je fais m'incite pas du tout. Oui, c'est. Bon, aujourd'hui, on sait, si les gens ils voyagent tous dans un avion, il n'y en a pas deux qui ont payé le même prix, donc il y a des gens qui ont payé 3 fois plus que les autres, qui sont assis au même endroit, qui ont le même service. Etc. Donc on prend l'habitude qu'effectivement c'est pas parce qu'on a payé, on fait les mêmes choses qu'on a droit au même statut, quoi. Visiblement on peut avoir le même statut sans payer. Ça, ici c'est tu fais la même chose et t'as pas le statut. C'est...
Pardon, dans ce que tu dis, tu parles de l'individualité, mais en fait on est responsable aussi de tout le cas, en fait. Tu parles que d'une personne, tout le tour. Alors là, on parle toujours du clan à chaque fois. C'est-à-dire dans la responsabilité, dans la.
Oui, c'est que ce que j'apporte au clal, c'est pas je lui apporte et je m'en débarrasse, mais terminus. Je continue d'exister, entre autres, pour l'autre. Parce que je dois être là pour l'autre, pour l'aider, pour prendre sa responsabilité, être responsable de l'autre. C'est pas France.
Est-ce que c'est dans le donner qu'il y a une individualité et dans le recevoir, c'est à tout collectif ?
Non, je ne sais pas s'il faut faire cette distinction. Je pense que chacun doit mettre à la disposition du clan ce qu'il a, ce qu'il est. Et ce n'est pas pour recevoir. C'est, du coup, ça constitue le clan s'enrichit quelque part. Et tout le monde s'enrichit grâce à cela. Bon, pour revenir à ce qu'on disait, donc, que le brit qui a eu lieu avec ce Naaseh V'Nishma, ce lien à la vie, en fait, et à ce lieu où Yitbarach est Echad, Yachid, Miyuchad, enfin, un, unique. Et quand Israël, donc, comme on a dit, se collait à cette racine-là, alors il s'appelle Knesset Israël, qui est un des noms de la Shrina. Et c'est ce qu'on dit dans les Zmirot de Shabbat, où on dit Naaseh V'Nishma Amru Ke'echad. Ils l'ont dit tous ensemble. Parce que c'est ça, c'est cette appartenance à la. Quand on dit Naaseh V'Nishma, ça met en avant ce lien à la racine du Knesset Israël. Mais c'est pour ça aussi que. C'est le Ramban qui dit ce que je vous ai dit précédemment, que Vaïchan Israël, Vaïchan Sham Israël Negedahar, que il dit, le Ramban dit ici quelque chose de très surprenant. Je vous ai dit, quand les Bnei Israël sortent de Mitzrayim, ils ont passé par toutes sortes d'étapes. Et dans ces étapes, ils ont campé. Et le texte porte à chaque fois Vayachanu. Vayachanu, Vayachanu, ils ont campé. Ils ont campé. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au pied du Sinaï, c'est marqué Vayachan Sham Israël. Il a campé. Donc, le clan Israël a campé, mais il n'y avait pas de clan jusque-là. Jusque-là, c'était cet Amas, ce Ramassi, cet ensemble de personnes qui avaient parties liées, bien entendu, qui avaient un passé en commun, qui avaient des événements extraordinaires, la sortie d'Égypte, le passage de la mer, etc. Tout ça, des trucs absolument extraordinaires, en commun. Ça, on pourrait dire, ça fonde le peuple. Rabbi Yehuda Halevi dit que le peuple, c'est l'ensemble des gens qui ont ce même passé, ils ont une histoire en commun. Bon, alors, ils l'avaient, cette histoire en commun. Néanmoins, jusque-là, ça ne s'appelle pas encore un peuple. Ils deviennent un peuple au Sinaï. Et le Ramban dit ici une chose très étrange. Il dit « Itachen ». Parce que c'est marqué que la Torah, elle a été donnée au clan d'Israël, n'est-ce pas ?« Vaikran Sham Israël ». On n'avait peut-être pas besoin de marquer Israël, puisqu'on sait très bien que c'est les Bnei Israël qu'on parle. Le Ramban dit « Itachen », il se peut... Il est très possible qu'à cet endroit-là, au Sinaï, les Bnei Israël aient mis de côté le Erev Rav. C'est-à-dire, il n'y avait que les Bnei Israël qui étaient devant la montagne. Et le Erev Rav était derrière. Au pied de la montagne, il n'y avait que les Bnei Israël. Le Ramban dit Itachen, il ne le dit pas, il ne donne pas de source, il dit il se peut que. Et Ça s'entend.
Erevrav,
c'est les Égyptiens qui sont venus au secours de la victoire. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, il y a des Égyptiens qui se sont joints au Bnei Israël. Et c'est la fameuse histoire que Moshe Rabbeinu les a acceptés. Hachem lui a dit, il ne faut pas les accepter. Et Moshe Rabbeinu a dit, mais autant que je vois, ils sont sincères, je les accepte. Hachem lui a dit, ok, on verra. Et quand Moshe Rabbeinu était sur le Sinaï, en train de recevoir les Luchot, alors Hachem lui a dit, Lech red kishichet amcha, redescends, ton peuple s'est fourvoyé. Alors le Midrash dit que Moshe Rabbeinu lui a dit à Hachem, qu'est-ce que ça veut dire mon peuple? C'est ton peuple. Alors Hachem dit, non, c'est le tien. C'est ton Erevrav là. C'est eux qui ont fourvoyé les gens. Et il y a un Chazal qui dit, on en avait parlé de ça, non? Moi j'avais toujours pensé que le Erevrav c'était quelques milliers de personnes. Mais il y a un Chazal qui montre, qui démontre plus ou moins. En réalité, ils étaient quatre fois plus nombreux que les Bnei Israël. Ils étaient 240 myriades, alors que les Bnei Israël étaient seulement 60 myriades. Alors, dire qu'ils étaient 240 myriades, ça veut dire qu'on a reconstitué le nombre de gens qui fabriquaient le Klal Israël en Égypte. 4/5 des Bnei Israël sont morts en Égypte. Donc, ils sont ces 4/5. Enfin, ils sont. Ils remplacent les 4/5 qui n'étaient pas là. Et donc, on retrouve de nouveau la totalité des 300 ribots de 300 myriades, des 240 et 60, et ça forme la totalité. On retrouve le même nombre de gens.
Donc, ça,
c'est Chazal qui explique ça comme ça, c'est pas écrit dans la Torah. Alors, c'est sûr que ça change complètement la vision des choses. S'il y avait 4 fois plus de Erevrav que de Bnei Israël. Premièrement, je ne comprends pas comment Moshe Rabbeinu l'a pu imaginer qu'il pouvait prendre tout ce monde-là. Parce que bon, qu'on puisse assimiler un petit groupe de gens, c'est les Bnei Israël qui vont donner le ton et ils vont suivre. Mais et quand ils sont 4 fois plus nombreux que les Bnei Israël, qu'est-ce qu'il a pensé, Moshe Rabbeinu?
Il a côtoyé quand même ces gens-là.
Ben ouais, c'était... tu peux imaginer quand les Bnei Israël, quand ils sont allés dans les camps de personnes déplacées où on s'est un peu occupé d'eux, il y avait aussi, en même temps que tous les SS qui étaient les je dis même pas les capots parce que les capots c'était des fois des juifs, mais les SS qui les ont torturés, ceux qui les ont le directeur, le chef du camp, ils étaient là aussi avec eux parce que les Égyptiens c'était quoi? Les Égyptiens, ils sont venus au secours de la victoire. Quand ils ont vu que les Bnei Israël sortaient, ils ont dit, ben nous on en est aussi, nous aussi on reconnaît la victoire. Il y avait de quoi reconnaître avec tout ce qu'Hachem leur a montré. On a compris, Emmet, on a compris. Pardon, mais 4 fois plus nombreux, 4 fois.
4 fois plus nombreux, je veux dire, ça veut dire qu'il est plus sorti avec eux qu'avec nous.
Oui, alors c'est ça que je ne comprends pas, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu voulait, je veux dire.
Oui, mais il était avec le pharaon pendant longtemps, il a côtoyé tous ces gens-là.
Mais ouais, mais ils savaient ce qu'ils ont fait. Ils savaient bien qui ils étaient.
Mais même les Bnei Israël, comment ont-ils pu accepter leurs tortureurs aussi nombreux? C'est pas possible. Comment ils n'ont pas respecté?
C'est pour ça, je vous dis, je ne comprends pas.
Ça n'existe
pas. Je ne comprends pas tellement. Peut-être. Je ne sais pas.
Déjà, si vous permettez, il y a quelque chose de.
Non, mais je ne sais pas si je vais vous permettre, ouais. Ouais.
C'est quand Hachem, il dit à Moshe, ne les prends pas, et Moshe, il lui dit. C'est un ordre d'Hachem, ne les prends pas.
Non, c'était pas un ordre. Hachem dit, il faut pas les prendre.
Il est angélique, Moshe. C'est un peu d'angélisme.
Il a
cru. Après, il était bien placé de savoir ce qu'il avait fait, quand même. C'est impensable, je pense, cette proportion.
Est-ce que je veux dire que pour recevoir la Torah, il faut être dans une disposition particulière et que tout le monde ne peut pas la recevoir? Mais
oui.
Est-ce qu'ils savaient où ils allaient? Ces 240 000, est-ce qu'ils savaient où ils allaient?
Mais les Bnei Israël eux-mêmes ne savaient pas où ils allaient, donc.
D'accord.
Mais quel était leur intérêt, eux,
ils sont venus à la vie, les Bnei Israël, ils sont sortis, vous savez, c'était. Le monde entier était pétrifié. C'est marqué, c'est ce qu'on dit dans la Shira. Le monde entier était pétrifié à la sortie d'Égypte. Comment ils, qu'est-ce que ça veut dire, ils peuvent sortir? Comment on peut sortir comme ça? Après, quand il s'est passé le passage de la mer...
Oui, mais le passage de la mer, ils étaient déjà...
Oui, d'accord, mais c'est la même chose.
Là, sortir,
il y avait les Makotes, il y avait 10 Makotes. Vous savez ce qui s'est passé là-bas?
Ah, c'est ça, ils oubliaient juste ça.
Pourquoi
fait
le lien, moi, avec la parole
inaudible?
Pourquoi il est...
Ah, c'est vrai, on n'a pas fini.
Ah, c'est vrai. Mais c'est quoi, cette parole?
C'est le
sucre. Au moins, il y en a une qui suit, quoi. Ça veut dire le niveau de Matan Torah, il correspond... au niveau Knesset Israël. Le Erev Rav, ils ne sont pas dans cette source. Ils ont, ça, ils ne l'ont pas. Certains veulent expliquer que Erev Rav, ça veut dire ils se sont mélangés à nous, mais du Echad, ils ont fait un Rav. De un, ils ont fait beaucoup. Ils ont fait... Donc, ils ont cassé l'unité, quoi. Ils ne respectaient pas... Ils n'ont pas compris ce que c'était que cette unité. Et on dit que, en fait, Erev Rav, c'est les Toldot d'Esav. Pourquoi? Parce que Esav, c'est celui qui, quand Yaakov lui donne, fait tous ses cadeaux, il dit, mais non, mon frère, Yeshli Rav. Il dit, j'ai beaucoup. Alors que Yaakov, il dit, Yeshli Kol, j'ai tout. Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Mais comme disent les petits-enfants, on peut aussi avoir très beaucoup. C'est-à-dire, quand on dit j'ai beaucoup, ça veut dire, ok, j'ai beaucoup, mais si tu m'en donnes, j'en aurai encore plus. J'ai rien contre. On dit que Yaakov, il dit, mais yesh li kol, moi j'ai tout ce qu'il faut. Et c'est ça, cette idée de... du clan Israël, en fait, marqué dans le Midrash sur Shir HaShirim, le Midrash dit Maase, il raconte une histoire. V'yalda isha achat b'mitzraim, il y a une femme en Égypte qui a mis au monde 60 myriades, 600 000 enfants en une fois. Alors on dit Zeyochevet, cette femme Zeyochevet, qui a mis au monde Moshe Rabbeinu, qui était Keneged Shishim Ribo, qui. Il faisait le poids contre... Il correspondait aux 600 000 juifs. 600 000, 60 myriades. Ouais. Et c'est ce qui est marqué dans le... Je suis toujours dans le Sefer Dvarim où c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Il dit... Anochi Omed, je me tiens... Il fait référence à... Je tenais... Ben Hachem ou Benechem, entre Hachem et vous. Mais pour être en fait entre Hachem et eux, il fallait bien qu'ils les représentent totalement pour pouvoir recevoir la Torah d'Hachem en leur nom, puis ensuite leur donner quand ils ont voulu que ce soit Moshe qui parle. Donc c'est ça qu'on veut dire. Il était Shishim Ribo. Parce que s'il n'était pas à 600 000, il n'aurait pas pu recevoir s'il n'avait pas cette potentialité. Et donc c'est cette idée du 1 et du 600 000. Le 600 000 correspond au 1. Maintenant on peut essayer de comprendre. Pourquoi effectivement les Aseret HaDibrot ont été dites en un seul dibour d'abord, une seule parole, d'accord, parole inaudible, etc. C'est parce que avant d'entendre les 10 paroles dites séparément, les Bnei Israël devaient d'abord se rattacher à la source des paroles de la Torah. À la source, dans le monde d'en haut, les paroles de la Torah, la Torah elle vient d'en haut, Il fallait d'abord se rattacher à cela, faire un travail d'abord pour avoir un lien avec ces livrets Torah. C'est-à-dire être au-dessus du désordre donné, c'est-à-dire avoir accès, si vous voulez, à celui qui donne la Torah, mais pas comme le roi qui donne des mitzvot à ses sujets, mais comme on a dit précédemment, comme un accès au cœur des choses, quoi, à la vie elle-même, à la source des choses. C'est ce qu'on a dit précédemment, un instant juste. On a dit que les Aseret HaDibrot ont été donnés en tant que brite, en tant qu'alliance, avec ce qu'on a expliqué de l'alliance, de ce que voulait dire l'alliance. Je vous ai coupé la parole, vous vouliez dire ? Justement, c'était justement, c'est cette parole-là, ce Dibur Echad, qu'ils ont entendu, accepté, sans comprendre du tout ce dont il s'agissait, mais en entendant quelque chose qui était la Torah dans son état initial. C'est ça qu'on a voulu dire. Ils ont entendu, ils ont eu un accès avec la Torah dans son état initial, dans son état source, à l'état, la source des paroles qui sont ensuite déployées une après l'autre, les Anokhi, etc. Avant qu'elles ne soient justement déployées. Donc l'acceptation de ces paroles en Dibur Echad, c'est une acceptation que c'est Knesset Israël qui a accepté, c'est pas les Bnei Israël en tant qu'individu. C'est en fait... Il y a le nombre de mots, le nombre de lettres, pardon, dans les Aseret HaDibrot, c'est en fait Keter. C'est Tariag plus 7. 613 plus 7. Le 7, c'est les 7 mitzvot de Rabbanan. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'il y a un lien entre la notion de couronne qui qualifie la totalité des lettres qui forment les Aseret HaDibrot, et les couronnes qui sont sur les lettres, dont on a parlé, dont Rabbi Akiva va tirer des montagnes d'Halachot. Justement, ce qu'on avait expliqué quand on avait parlé de... C'est ça, c'est le niveau Brit, n'est-ce pas, encore une fois. Dans ces couronnes-là, il y a cette dimension de Brit. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu a fait, vous vous souvenez, en ajoutant un jour supplémentaire. Il a permis, c'est une autre, pour expliquer un peu mieux, il avait permis au Bnei Israël de n'être pas seulement à la réception, mais aussi au don de la Torah. Donc ils sont au don de la Torah, ils sont là où la Torah est encore dans sa version non déployée, non donnée encore, version où tout est uni, tout est un. Et grâce à Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël ont un lien avec ça. Le lien, ils l'ont. Moshe Rabbeinu a ajouté il a ajouté ce jour pour mettre les Bnei Israël en situation. Ensuite, comme ils ont dit Naaseh v'Nishma, concrètement, ils sont entrés dans cette alliance. Ça s'est concrétisé cet accès. Et c'est cet accès-là, de Brit, de Keter, etc., qui est l'accès par lequel Rabbi Akiva a été Doresh, ce qu'il est seul à avoir été Doresh, que lui il a produit, et comme vous savez, c'est lui le Av de la Torah chez Baal Peh. Il est le père de la Torah chez Baal Peh, Rabbi Akiva. Le père, c'est celui donc qui a inventé, comme on utilise en français le mot père pour qualifier l'inventeur. C'est l'inventeur de la Torah chez Baal Peh. C'est pas que il l'a inventé de toutes pièces. Il est l'inventeur, comme on dit aujourd'hui, quelqu'un qui a découvert quelque chose. Il a un statut d'inventeur par rapport au brevet, etc. C'est lui qui a inventé la chose. C'est lui qui l'a descendu. Mais comment il a pu le faire? Grâce à Moshe Rabbeinu. Et c'est ce qu'il a dit quand il a dit devant Moshe Rabbeinu que c'est Alakha le Moshe Missinaï. Il a dit, ce que je suis en train de faire, je ne peux le faire que grâce à Moshe. Que Moshe Rabbeinu, lui, il n'avait pas cet accès-là. Parce que lui, il était tout entier dans le don. Dans la partie de la Torah qui a été donnée. La partie qui est encore, cet infini qui est encore là, à cela, Rabbi Akiva a eu accès grâce au travail de Moshe Rabbeinu. Et donc, grâce à ce travail des couronnes, où Hachem a mis de... C'est lui qui a écrit ces couronnes pour justement... pour donner une prise, en quelque sorte, une mini-prise à Rabbi Akiva pour faire le travail qu'il va pouvoir faire. Et donc, il faut comprendre que quand les Bnei Israël se font un Kiddush Hachem, s'ils donnent leur vie pour le nom divin, comment est-ce qu'il peut y avoir une obligation qui est faite à un individu de donner sa vie? Puisque toute cette histoire-là, c'est un truc collectif. Comment se fait-il que ça descende au niveau de l'individu? Les mitzvot du roi. Bon. Après que on se soit situé comme le Eved, comme le serviteur, etc., alors on a l'obligation de faire tout ce que le roi nous a ordonné de faire. Mais donner la vie, ça ne résulte pas d'un ordre. Le roi, enfin le maître, n'est pas en... Il ne va pas dire à l'esclave, tu dois donner ta vie pour moi. Ce serait un abus de pouvoir. Il n'a pas ce statut-là. Et donc, on ne peut comprendre ce inyan de Messirut Nefesh de donner sa vie pour cela qu'en comprenant que c'est au-dessus des mitzvot. C'est une mitzvah au-dessus des mitzvot. C'est pas quelque chose qui fait partie de l'ensemble des mitzvot. Donc, ça vient pas justement du côté individuel. Ça vient de ce que il s'éveille en lui, la conscience de l'alliance qu'a le Knesset Israël. Et c'est à ce titre-là, au titre de... Il y a une alliance entre Hachem et le Klal Israël. Et à un moment donné, c'est comme si... Bon, voilà, maintenant, il faut que je fasse tenir cette alliance. Je suis en position... Pour bénéficier de cette alliance, en quelque sorte, il faut que je ne fasse pas, que je ne me retire pas de l'alliance. Et la Torah, elle a dévoilé que sur ces mitzvot-là, il y a une mitzvah de une mise en demeure, en quelque sorte. Fais attention, là, il y a le lieu, il y a un lieu où on pourrait se retirer de l'alliance. Donc fais attention de ne pas t'en retirer. La grêle. C'est vrai que la sortie d'Égypte, elle a eu lieu sous condition que vous sanctifiez mon nom. C'est-à-dire, Hachem a dit. Il faut que les Bnei Israël Le Sinaï, pardon, la sortie d'Égypte, c'était Almenat à la condition, pratiquement, que vous me serviez sur cette montagne. C'est ce qui a été dit à Moshe Rabbeinu. Vous allez me servir sur la montagne. Au moment du buisson ardent, c'est au Sinaï, la chaîne dit à Moshe, la preuve que vous allez sortir d'Égypte, c'est que vous allez venir me servir sur cette montagne. Donc les Israël sont, quand ils sortent d'Égypte, ils ont l'obligation d'aller servir Hachem sur le Sinaï. Et cette dimension-là, Tavdou le Tarilokim, en fait, ça, c'est au fond la dimension de assumer l'alliance avec Hachem. Concrètement, la sortie d'Égypte, c'est le commencement de cette alliance. Et donc c'est déjà pour cette alliance qu'on est sorti d'Égypte. Mais on n'y était pas encore. Quand on était en Égypte, on n'était pas arrivé. Ça devait se faire, mais... Donc c'est pour ça que le Matan Torah s'appelle Yom HaKahal, le jour du rassemblement. Et à ce moment-là, c'est le jour où est né le rassemblement. Ce jour-là, le Knesset d'Israël est né. Au moment du Korban Pessah, c'est marqué aussi Kahal Adat Israël, l'assemblée, mais c'était pas Yom HaKahal, parce que dans le Corban, il y avait, c'était encore seulement, le Corban Pessah, c'était seulement un rassemblement de gens, un ramassis de gens, mais pas encore de rassemblement. Donc ce qui a été dit de façon inaudible, c'était en fait le moyen pour les Bnei Israël d'accéder à la Torah inaudible, à la Torah qui restait en haut, la Torah qui était encore non déployée. Mais après, on leur a déployé la Torah. Il fallait cette acceptation-là, c'est-à-dire accepter la Torah en tant que brique, en tant qu'alliance avec Hachem, pour tout ce qu'on a dit sur cette alliance. Alors on va s'arrêter là. Pour le matin, pour la nuit. Attends, tu veux faire du café? Un parapluie, ça sert à rien. Une fois, mais c'est pas avec vous, je crois. Mais pas aussi longtemps. Il y a eu une averse de grêle, mais là, c'est long, hein.
Vous avez dit que c'était un premier pas, il m'arrive.
À peu près.
Tu me dis quelque part, il n'y a pas.
pas 9h et quelque chose, mais 11h. Entre 21h et 23h, des choses comme ça. Parce qu'il y a une mitzvah de n'allumer que la nuit. Pour que ça soit complet, les 49 jours. Vous pouvez appeler, c'est Yom Tov, on peut allumer après la nuit. Vous allumerez quand vous rentrerez, c'est la nuit. Non, il vaut mieux allumer après. C'est le premier jour, il y a une mitzvah de n'allumer que pour que les 49 jours soient pleins, hein. De ne pas prendre Shavuot avant la nuit. C'est Yom Tov, on peut allumer après la nuit. C'est Yom Tov, on peut allumer dans la nuit. Pas en retard, c'est pas en retard. On peut allumer la nuit. À Shavuot, c'est marqué qu'il faut allumer la nuit. Vous allumez une bougie avant, avec cette bougie, vous allumerez vos lumières.
Il faut allumer la nuit avant.